Et merci d'avoir choisi Europe 1, il est midi.
Je suis sûr qu'ils sont mieux à une terrasse de bar avec une bière fraîche que de la boire chaude là sur le quai.
Il est temps que tout rouvre, le petit bar là, le bar à vin, les restaurants. Peut-être que ça ira mieux à partir de là.
Le retour, Pierre, à une vie normale. Les Français l'attendent, spécialement en zone rouge. Cet après-midi, Édouard Philippe annonce la couleur de la deuxième phase du déconfinement.
Alors que les derniers ajustements sont en train de se faire, nous ferons le point avec Jean-Rémy Baudeau et Ève Roger. La droite perd l'un de ses ténors historiques, Claude Goasguen, est décédé ce matin des suites du Covid-19. Son portrait tout à l'heure à 12h30 et nous recevrons l'ancienne ministre Michèle Alliot-Marie.
Et la politique, c'est aussi ce rapprochement entre Gérard Collomb et Laurent Wauquiez.
Improbable alliance entre la gauche modérée et la droite dure. L'idée étant de faire barrage aux écologistes ralliés à l'extrême gauche et à la métropole de Lyon et à la mairie. Le politologue Pascal Perrineau nous en dit plus tout à l'heure. Dans ce journal également, on s'attendait à beaucoup, mais là c'est historique. La hausse du chômage en avril atteint plus de 22%. Des émeutes hier soir dans le Val d'Oise. Images détournées pour mettre le feu aux poudres. David Lebar, secrétaire général des commissaire de la police, sera avec nous vers 12h35. EasyJet se prépare à se séparer de 4500 employés. C'est un tiers de ses effectifs. Jean-Michel Aulas n'en démord pas. Il prend sa plume et il écrit directement au gouvernement. Et puis la réouverture du printemps Haussmann à Paris pour le plus grand plaisir des clients.
Je m'attendais pas à ça. Je me suis dit j'arrivais un quart d'heure avant, mais je pensais vraiment pas qu'il y aurait autant de monde. J'ai vu ce matin que c'était réouvert, donc j'ai pas traîné.
La météo, Céline, il fait beau.
Oui, c'est encore une belle journée avec cet après-midi 22 à 30 degrés en moyenne du nord au sud. Grand soleil, on en profite car comme prévu, ça commence à se gâter pour la moitié sud dès demain après-midi. Merci Céline, on se retrouve juste avant 13h. Météo complète sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
L'horaire de la messe, Pierre, la grand-messe, c'est ce soir, 17h.
Oui, c'est la deuxième phase du déconfinement. Édouard Philippe va donc donner plus de précisions sur les restaurants, les cafés, les services, les stades, les clubs de sport, les théâtres, les parcs et jardins. J'en oublie sans doute. Un conseil de défense s'est tenu ce matin pour les derniers ajustements. Jean-Rémy Baudeau.
Jusqu'à présent, la règle, c'était l'interdiction et il y avait des exceptions. On se dirige de plus en plus vers l'inverse. Voilà ce que laisse entendre l'entourage du Premier ministre. Cette philosophie posée, on attend évidemment ce qui doit ressortir du Conseil de défense de la matinée autour du président. Tout y est remis à plat, le plan de cette deuxième phase, les déclinaisons locales, les cartes très attendues, notamment par les habitants de l'Île-de-France et du quart nord-est du pays qui veulent savoir si leur département sort du rouge. L'officialisation, elle sera faite aujourd'hui à 17h par le Premier ministre, mais d'ici la prudence, car de nouveaux critères seront pris en compte, comme par exemple le nombre de tests positifs. Collèges, lycées, cafés, restaurants, loisirs, parcs et jardins, les sujets sont nombreux. Concernant les 100 km, la question n'était pas encore tranchée hier soir. Seule certitude, selon un membre de l'exécutif, le jour où l'on supprimera cette limite, on n'en remettra pas une à 300 ou 500 km. Reste à savoir combien de temps il faudra pour retrouver un semblant de vie normale alors que l'épidémie semble perdre de la vigueur. Matignon envisage 3 phases de déconfinement, mais garde le pied sur le frein. En cas de reprise du Covid, eh bien, le plan du gouvernement est prévu pour tout simplement être réversible.
Jean-Rémy Baudeau, du coup, les couleurs rouge et verte vont sans doute repasser chez le teinturier et les cartes vont être rebattues pour redessiner une nouvelle carte, Ève Roger.
Et oui Pierre, une nouvelle carte avec de nouveaux indicateurs, car si on gardait les anciens, ceux que vous connaissez bien, l'occupation des lits en réanimation, les passages aux urgences pour suspicion de Covid et la capacité à faire des tests, eh bien toute la France serait en vert, à deux exceptions près, Paris et le Val d'Oise. Donc, pour distinguer certaines zones plus à risque que d'autres, Santé publique France a mis en place de nouveaux indicateurs, à commencer par le nombre de tests positifs effectués département par département, les fameux tests PCR. Et c'est Daniel Lévy-Brulle, médecin épidémiologiste à Santé publique France, qui nous en explique le principe.
Nous aurons l'information pratiquement en temps réel de l'ensemble des laboratoires de France, qu'il s'agisse des laboratoires privés, des laboratoires publics. Donc c'est un outil très puissant qui va nous permettre de tracer le virus partout où il continuera de circuler. Et puis nous avons également mis en place une autre surveillance, ce qu'on appelle les clusters, les cas groupés, qui là dénotent une circulation plus active du virus dans certaines collectivités ou dans certains lieux.
Donc, tests positifs et clusters, deux nouveaux indicateurs qui permettront au Premier ministre de montrer cet après-midi des cartes carte plus précise, plus près du territoire, sans doute département par département et non plus par région. Et la surprise, c'est qu'une région comme l'Île-de-France, par exemple, pourra avoir des départements à la fois verts mais aussi rouges, ce qui risque de créer un peu de confusion.
Et c'est ça la grande différence. Merci Ève Roger.
Et ce retour à la vie normale, Pierre, hein, qu'on voit en Allemagne, en Autriche et même en Italie, nous le voulons tous très très vite.
Oui, on le veut notamment pour éviter des rassemblements pirates, comme on a vu à Paris au Canal Saint-Martin ou au Vallon des Eaux à Marseille, où tous les soirs, ce petit port se transforme littéralement en bistrot, Nathalie Chevance.
Oui, et ce midi encore restent les stigmates de la fête d'hier, des bouteilles vides, des canettes, des masques qui jonchent ici ou là le sol de ce petit coin de paradis, envahi tous les soirs par plus de 300 fêtards sous les fenêtres des riverains comme Charles, à bout de voir le Vallon des Eaufs transformé en bar-restaurant à ciel ouvert.
Mais on a des grappes humaines le soir qui viennent boire des apéros sur les quais là, et ils m'ont mis la musique jusqu'à 2h du matin. Je suis sorti 3 fois, impossible de les faire arrêter. C'est des bobos, hein. c'est pas des méchants, hein. C'est des bobos, mais ils boivent énormément, ils laissent tous les déchets sur place. Les mégots de cigarettes, de n'avoir 1000 par jour dans la mer. Ils se font livrer des pizzas, donc ils mangent sur place. Ils nous font pipi de partout. C'est une catastrophe, c'est dramatique.
Et la police a beau intervenir pour disperser la foule, la jeunesse dorée marseillaise récidive, tout est bon pour trinquer en bord de mer, comme le racontent Jean et Raymond.
On a un collègue qui était sur son bateau, et les 3 filles, bien habillées et tout, ils ont demandé un tire-bouchon. Ils ont ouvert la bouteille de rosé, ils ont sorti les bières du sac et la bouteille de vodka. Où on va là ? Et puis je suis sûr qu'ils sont mieux à une terrasse de bar avec une bière fraîche que de la boire chaude là sur le quai.
Il est temps que tout rouvre, le petit bar là, le bar à vin, les restaurants. Peut-être que ça ira mieux à partir de là, que ça soit fait dans les règles.
Et les festivités vont démarrer dans moins d'une heure avec les premiers baigneurs au Vallon des Eaufs en attendant l'apéro dînatoire sauvage du soir.
Bonne ambiance là-bas au Vallon des Eaufs. Vous confirmez, Raphaël ?
Je confirme.
Vous confirmez. Et lors de ce confinement, beaucoup d'entre vous ont renoncé au transport en commun contraignant avec le port du masque. Les régionales de transport accusent d'ailleurs un sérieux manque à gagner. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a ce matin sur Europe 1 annoncé qu'elle ferait face financièrement.
Pendant ce temps, celui qui a le vent en poupe, évidemment, c'est le vélo. La ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, a annoncé, écoutez bien, un triplement du budget dédié au plan vélo. 60 millions d'euros seront débloqués, Pierre, pour inciter les Français à le pratiquer.
Est-ce qu'il y a incité les Français à en acheter tout d'abord, ou alors de sortir sa vieille bécane de la cave? Bonjour Alexis Zerbib.
Bonjour.
Patron de Cyclofix, vous confirmez, vous êtes complet sur l'agenda des réparations?
Alors oui, on est très très demandé, on a une très très forte augmentation de la demande, à peu près x6 hein, par rapport à ce qu'on a connu avant le confinement.
x6, ah oui.
Voilà, et par contre on a des délais qui sont certes un petit peu rallongés par rapport à l'habitude, puisque habituellement on intervient le jour même, voire dans les 24 heures. Là, en fonction des villes, ça peut passer à 72 heures de délai. Mais en tout cas, on fait en sorte de contenir au maximum ce délai d'intervention pour rester sur quelque chose de raisonnable et intervenir dans les quelques jours qui suivent la demande.
Oui, vous allez avoir de plus en plus de demandes, Alexis Zerbib, parce qu'il y a de plus en plus de pistes cyclables. Il y a de plus en plus de petites stations aussi qui s'installent en ville hein, pour qu'on puisse faire ces réparations soi-même. Il y a vraiment un mouvement vélo.
Complètement. Alors, on est très heureux de ça. On salue toutes les initiatives qui vont dans ce sens, que ce soit les initiatives politiques ou associatives ou les entreprises comme Cyclofix. C'est vrai que un des points clés, c'est évidemment l'infrastructure. C'est ce qui fait que, je dirais, le commun des mortels n'hésite plus à prendre son vélo pour se déplacer, sans craindre l'aspect sécuritaire, notamment sur la route et le partage de la route avec les automobilistes. Donc, le fait qu'il y ait eu, par exemple, toutes ces pistes cyclables aménagées de manière temporaire a été très efficace. On voit tous le nombre de vélos qui a augmenté dans les rues. Et ça, je pense que c'est assez clé. Évidemment, ça a été accompagné par une subvention, par une aide de 50 euros de l'État qui fait que, eh bien oui, il est possible, parfois même pour moins que 50 euros, hein, de remettre en état son vélo et de rouler en toute sécurité.
C'est ce que j'allais vous demander. Ça coûte combien de faire réparer son vélo? Sachant qu'on a 50 euros d'aide de l'État et vous donnez un petit quelque chose en plus, vous d'ailleurs, je crois.
Oui, alors nous, on a voulu soutenir cette aide. On ne peut rien vous cacher, avant que l'aide soit mise en place pendant le confinement, on avait réfléchi à une manière d'aider les gens à mettre en état leur vélo avec 10 euros. Donc
ça fait 60. Alors pour 60, j'ai combien? J'ai les freins, j'ai les pneus, j'ai quoi?
Alors pour 60 euros, oui, vous avez plusieurs choses possibles. Chez nous, la réparation d'une crevaison, c'est-à-dire le remplacement de la chambre à air, est à 18 euros sur un vélo classique. La révision complète d'un vélo, c'est-à-dire absolument tous les réglages, des vitesses, des freins, des points de sécurité, est à 39 euros. Ouais. Donc on va dire que pour un budget à partir de une quarantaine d'euros, on va dire entre 40 et 60 euros, vous pouvez réellement remettre en état votre vélo et avoir des freins en bon état, des roues bien gonflées.
Là, je suis Bernardino. Là, je suis Bernardino. Là, je suis Paris. Là, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Bernardino, rien que ça.
Merci beaucoup, Alexis Herbi, patron de Cyclofix. Je sais pas parce que j'y arrive pas aujourd'hui. Patron de Cyclofix d'avoir été avec nous dans Europe Midi.
Il est midi 10. Europe 1. Quand pourrons-nous retrouver les salles obscures? Les cinémas n'ont toujours pas de date de réouverture. Lui, en revanche, peut rouvrir. C'est le printemps Haussmann. A tout de suite. Il est midi 12, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin. Dites Pierre, quand est-ce qu'on va pouvoir aller au cinéma?
Là aussi, c'est à Édouard Philippe de vous répondre, de vous le préciser tout à l'heure. Les gérants de salles vont bien sûr devoir respecter les gestes barrières, mais pas indéfiniment. Angèle Châtelier.
Impossible pour l'heure d'imaginer dès le mois de juillet une salle de cinéma pleine. Sur le cahier des charges, l'idée c'est plutôt 50% de sièges occupés avec un rang sur deux inaccessible ou un public réparti en étoiles. Et puis un siège entre chaque famille, chaque couple ou personne seule. Et ça, c'est jouable, selon François Aimé, président de l'association des cinémas Arts et Essais.
Si la jauge est réduite à 50% pendant une période qui pourrait être l'été par exemple, franchement je pense que c'est soutenable et gérable. Ce qu'on espère, c'est que le masque soit demandé au moment où les gens rentrent dans le cinéma, mais pendant la projection, il faut que le masque puisse être enlevé.
A priori, les masques ne devraient pas être obligatoires dans la salle. En revanche, il faudra s'armer de patience entre deux séances. Un nettoyage plus long est prévu entre chacune d'elles pour désinfecter de fond en comble, ce qui devrait les espacer.
Bonjour Adou Mirailenaou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, réalisateur, scénariste et producteur, vice-président de l'ARP, Société des auteurs, acteurs et producteurs. Vous l'espérez, comme nous tous hein, d'ailleurs, cette réouverture des cinémas. On est tous dans l'attente.
On rêve de cette réouverture parce que nous tous on fait des films pour un public. Donc on rêve de revoir le public, prendre confiance et venir découvrir nos films en salle. Et je rappelle aussi que le cinéma, en tout cas, dépend, toute la filière dépend du public et de son arrivée en salle, donc aussi de cette recette de la salle. Sans la salle, on ne peut plus tourner des films.
C'est-à-dire, on ne peut plus tourner des films parce que même s'il y a Netflix, même s'il y a la VOD, même s'il y a des nouvelles plateformes, même si on s'est habitué pendant le confinement à regarder les films chez soi.
Il y a deux types de films. Il y a des films et des séries qui passent que sur les plateformes, ce qu'on appelait dans le temps des téléfilms. Et il y a des films de cinéma qui sortent d'abord au cinéma et qui ensuite sont diffusés sur Canal+, OCS.
On l'a même vu à Cannes. Il y a des films qui sont directement lancés sur plateforme.
Il y a eu des dérogations, mais depuis, vous êtes au courant. Il y a eu une année où les films Netflix étaient autorisés à Cannes. Ensuite, ils n'ont plus été autorisés. Et cette année, il y avait des pourparlers, mais ça se fait avec une dérogation. Comme il y a longtemps, il y avait des films d'Arte, par exemple, de Téchiné ou autres, qui passaient à Cannes avec une dérogation, mais qui ensuite sortaient dans les salles quand même.
Quelle est la bonne date de réouverture pour vous? Allez, le bon timing, ce serait lequel?
Disons, le bon timing, c'est effectivement début juillet, mais début juillet, d'abord, il faut qu'on redonne le goût aux spectateurs. On est au courant que pendant deux mois, les spectateurs ont pris du goût à voir des films sur leur télévision. Donc, il faut qu'on leur redonne le goût et la confiance de venir dans les salles de cinéma, donc de découvrir des très, très bons films. Effectivement, ça ne sera pas suffisant au niveau des recettes, mais il faut que ça reprenne en juillet pour qu'en septembre, disons, à la rentrée, il y a une pleine confiance en espérant aussi qu'on pourra remplir à 100% les salles à ce moment-là, parce que cet argent-là qui remonte vers la distribution et autres jusqu'aux producteurs permet de créer, donc de tourner d'autres films. Sans cette recette, le cinéma va s'arrêter.
Radu,
il sera complètement sinistré.
Radu Mihailianu, est-ce qu'il y a des petites salles qui déjà économiquement étaient justes, et est-ce qu'il y a des petites salles qui vont fermer?
Il y a un risque que des petites salles ferment. Bien sûr que le CNC, le Centre du cinéma français, a déclenché des aides pour les aider. La mairie de Paris, par exemple, a déclenché une aide pour toute la culture de 15 millions d'euros. Les régions aussi vont aider ces salles-là. Le risque est qu'aujourd'hui, comme vous avez dit, il y aura des mesures sécuritaires, de sécurité de santé supplémentaires, donc ils vont apporter des frais supplémentaires. Donc la question va être avec la moitié des recettes maximum, puisque la capacité va être de moitié, est-ce que les recettes ne vont pas être tellement petites par rapport aux coûts, aux frais, que ces salles, au bout d'un moment, seront obligées de fermer. Nous-mêmes, l'association d'art, nous avons une salle, le cinéma des cinéastes. Effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de soucis avec ce cinéma et on essaie de rattraper.
Est-ce que la solution, finalement, temporaire, y compris pour cet été, ce ne serait pas de continuer à faire du drive, de continuer à faire des cinémas en plein air, ce qui a l'air de fonctionner pour l'instant, et de maintenir finalement ce lien avec les spectateurs?
Non, mais effectivement, il faut continuer. Je sais que certains sont contre les drives. Moi, je suis pour, mais encore une fois, le drive, c'est un tout petit supplément. Vous imaginez bien que le drive n'est possible qu'à une heure très tardive quand il fait nuit. Donc, ce n'est qu'une séance par jour. C'est pas ça le cinéma. Le cinéma, c'est lorsqu'on peut voir des films à partir de 14 heures jusqu'à tard dans la nuit et qu'il y ait plus de recettes et qu'il y ait de plus en plus de spectateurs. Les spectateurs, deux séances par jour. Une séance par ville, ce n'est pas suffisant, ça ne s'appelle pas du cinéma.
Merci beaucoup Radu Mihaileanu d'avoir été avec nous en direct dans Europe Midi.
Et pendant les vacances, nous irons peut-être au cinéma, nous irons peut-être aussi au printemps Haussmann, qui sait, puisqu'il a rouvert ce matin.
Oui, et Justin Morin, vous étiez à l'ouverture, il y avait du monde hein?
Oui, près de 200 personnes, j'ai compté, ont attendu l'ouverture du grand magasin le long des célèbres vitrines. Alors, la distanciation sociale n'était visiblement pas la priorité des personnes présentes, ce qui a surpris Anne, venue pour récupérer des sandales d'été.
Je m'attendais pas à ça. Je me suis dit, j'arrivais un quart d'heure avant, mais je pensais vraiment pas qu'il y aurait autant de monde. J'attends une commande depuis un moment, donc j'attendais, je vérifiais régulièrement quand est-ce que ça allait réouvrir et j'ai pas traîné.
Dès l'ouverture, tout était bien préparé. Des salariés à l'intérieur ont applaudi les premiers clients, qui se sont succédés un par un à l'entrée pour recevoir une noisette de gel hydroalcoolique. Christine était parmi eux.
Bon, vous rentrez, bon, hop, il y a un agent qui vous met un peu de gel sur les mains, pof pof, et puis voilà, le masque obligatoire. J'ai pas peur.
Pas peur, mais pas encore totalement confiante concernant les essayages.
J'avoue que j'ose pas, hein. Mais c'est vrai qu'effectivement, les vendeuses, tout de suite, elles isolent les vêtements qui sont pas pris. Mais pour l'instant, je ne me lance pas encore.
Le directeur général du Printemps Haussmann, Pierre Pellaret, invité d'Europe 1 hier, a assuré que tout était fait pour que les clients soient sereins dans le magasin. Il faudra certainement encore un peu de temps pour s'habituer à ces nouveaux usages.
Question Pierre. Le bac français, eh oui, les lycéens vont-ils pouvoir le passer?
Oui, beaucoup de questionnements autour de l'école, on le voit tous les jours dans Europe Midi, la reprise des lycées, des collèges, mais c'est vrai, la question centrale c'est le bac de français envisageable en l'état, Virginie Salmen?
Oui, c'est la grande question, hein. Est-ce qu'il va être maintenu? Le Premier ministre Édouard Philippe pourrait en dire un mot cet après-midi. 526 000 élèves attendent impatiemment cette annonce, les oraux sont censés démarrer dès le 26 juin. Alors tous les syndicats d'enseignants et les parents d'élèves de la FCPE et de la PEP se sont prononcés contre la tenue de l'épreuve. Ils estiment que les élèves n'ont pas pu se préparer correctement. Ça fait 2 ou 3 mois pour certains dans le Grand Est qu'ils n'ont pas mis les pieds dans une salle de cours. Ils ont surtout travaillé sur l'écrit, pas beaucoup sur les oraux. Et notamment, beaucoup n'ont pas pu passer d'oral blanc, de bac blanc. Une majorité de professeurs estiment que ça n'a pas un grand intérêt de faire passer l'épreuve à des candidats mal préparés, en tentant de rattraper les notes derrière pour qu'elles tiennent compte du handicap de la crise sanitaire. En revanche, le ministre Jean-Michel Blanquer veut envoyer des signaux de travail dans cette période compliquée. Il avait déclaré dans les colonnes du journal du dimanche, les élèves me remercieront dans 10 ans en se souvenant de leur lecture de Phèdre durant le confinement.
Eh ben, c'est Jean-Michel Blanquer qui a dit ça?
Oui.
Merci
absolument.
Virginie Salmen.
Il est midi 20.
Europe 1.
Restez avec nous, d'ici 13h, on va revenir sur le décès de Claude Goasguen. Et puis d'ici quelques minutes, on rejoint comme chaque jour la spécialiste santé d'Europe 1, Mélanie Gomez, qui répond à toutes vos questions. A tout de suite. Il est midi 23, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneau et Raphaël Duchemin. Et c'est l'heure de retrouver la spécialiste santé d'Europe 1. Bonjour Mélanie Gomez.
Bonjour Mélanie.
Bonjour Raphaël, bonjour Pierre, bonjour à tous.
Vous répondez chaque jour aux questions des auditeurs, celle de Florence notamment aujourd'hui. Elle a 38 ans, elle vit à Gap. J'ai lu que la vitamine D pouvait aider à prévenir, à éviter d'être infecté par le coronavirus. Est-ce sérieux ?
Alors, attention avec ce type d'infos. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur les apports de la vitamine D dans le contexte de coronavirus, mais restons prudents pour l'aspect préventif surtout dont vous parlez. Alors, c'est vrai qu'en avril dernier, une publication américaine a suggéré que les patients en carence de vitamine D avaient plus de risques de contracter une forme grave de Covid-19. Néanmoins, c'est pas pour ça qu'il faut se ruer sur la supplémentation. Mieux vaut voir ça avec votre médecin, car il y a quand même aussi des chercheurs anglais qui ont publié des données inverses. Eux affirment que les preuves scientifiques de cette protection conférée soi-disant par la vitamine D sont vraiment très faibles, et surtout ces Anglais affirment aussi qu'une des études de pro-vitamine D serait en plus soutenue financièrement par les labos qui la fabriquent. Bref, si avec votre médecin vous faites le point et que vous avez effectivement un risque de carence, pourquoi pas vous supplémenter, mais sinon oubliez ça en automédication. En tout cas, en revanche, ce que vous pouvez faire, et ça vous fera pas de mal c'est sûr, c'est de vous exposer un peu au soleil, au moins 15 minutes par jour, le visage et les avant-bras. Cela vous permettra déjà de faire le plein de vitamine D de façon tout à fait naturelle.
Jade de Bordeaux a cette question pour vous, Mélanie. J'ai entendu parler d'une plante, l'artémisia, qui ferait des miracles contre le coronavirus. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ?
Bon, les miracles, on n'aime jamais trop ça. Alors, c'est vrai que la plante Artemisia annua, comme on l'appelle, on l'appelle aussi l'armoise annuelle. Elle a fait l'objet ces derniers mois de nombreuses allégations selon lesquelles elle pourrait théoriquement prévenir ou même guérir l'infection à Covid-19. Alors, je dis théoriquement parce que c'est simple, son efficacité chez l'homme n'a jamais été démontrée scientifiquement. D'ailleurs, il y a quelques semaines, l'agence du médicament, la NSM, a fait une mise en garde contre l'achat sur Internet de nombreux produits comme des décoctions, des gélules à base d'Artemisia. Et cette mise au point, elle était nécessaire, car il y a même une tisane d'Artemisia baptisée Covid Organics qui a été lancée officiellement par le président malgache en avril, qui a fait carrément le buzz, cette tisane. Il faut savoir que Madagascar, c'est le premier exportateur mondial d'Artemisia. Pourquoi ? Parce que l'Artemisia, son principe actif, c'est l'artémicine, et c'est utilisé en association avec d'autres combinaisons thérapeutiques contre le paludisme. Mais vraiment, par contre, attention, parce que contre le coronavirus, à ce stade, il n'y a donc aucune preuve scientifique de son efficacité.
Merci Mélanie, tout à l'heure 15h pour 100 rendez-vous.
Il est midi 25.
Europe 1.
À suivre, il avait contracté le coronavirus, il a succombé à une crise cardiaque, Claude Gauzène est mort, une figure de la droite. Nous serons en ligne d'ici quelques minutes avec Michel Alliot-Marie. À tout de suite.
Il est midi 28, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Il était une figure de la droite, Pierre. Claude Gauzène est décédé.
On l'a appris en fin de matinée, Claude Gauzène avait 75 ans. Il était hospitalisé dernièrement. Et comme Patrick Devedjian il y a quelques semaines, eh bien, il a été lui aussi victime du Covid-19. Jean-Gabriel Bourgeois, il reste dans les mémoires comme un ténor de la droite de ces dernières décennies.
Oui, c'est un baron de la droite qui disparaît, député depuis près de 30 ans, toujours un peu décalé mais très engagé, retient un élu, notamment dans la lutte contre l'antisémitisme et la défense des chrétiens d'Orient. « Mon grand regret est de ne pas être juif moi-même », avait-il confié un jour. À l'Assemblée, en novembre 2016, il questionnait le gouvernement sur les prises de position de l'UNESCO en faveur de la Palestine.
Monsieur le Premier ministre, il faudrait savoir, en définitive, ce que cherche la France à l'égard de l'État d'Israël. Est-ce que vous croyez, monsieur le Premier ministre, que l'UNESCO va sortir grandi de cette opération de tambouille politicienne faite avec des émirs ? Est-ce que vous croyez qu'il est digne pour la France de soutenir une résolution de cet ordre ? La France se déshonore. La France en a assez de lécher la babouche des émirs.
Avec la disparition de Claude Gauzène, c'est une page de la droite parisienne qui se tourne, confie un élu de la capitale. L'un de ses mentors, c'était Jacques Chirac, dont il est l'adjoint à la mairie de Paris, avant d'être brièvement nommé ministre en 1995 sous le premier gouvernement Juppé. Claude Gauzène est élu au Conseil de Paris depuis 1983, d'abord dans le 14e puis dans le 16e arrondissement. Il y est maire de 2008 à 2017, date à laquelle il préfère garder son siège de député. Ses collègues de l'Assemblée sont aujourd'hui un peu orphelin et salue l'homme libre et fort de ses convictions qu'il était. Claude Gauzène a été l'un des premiers politiques à avoir contracté le coronavirus. Après 22 jours en réanimation, il était sorti de l'hôpital. Il allait mieux et remarchait, précise sa famille. Mais ce matin, il s'est éteint d'un arrêt cardiaque alors qu'il se remettait tout juste du Covid-19.
Merci Jean-Gabriel Bourgeois. Bonjour Michel Alliot-Marie.
Bonjour.
Et merci d'avoir choisi Europe Midi pour vous exprimer après ce décès qu'on vient d'apprendre il y a à peu près une heure maintenant. Michel Alliot-Marie, qu'est-ce qu'on retient ? Qu'est-ce que vous retenez, vous qui avez travaillé avec Claude Gauzène pendant tellement d'années ? Qu'est-ce que vous retenez de lui ?
Écoutez, aujourd'hui, ce qui domine surtout, c'est la tristesse et je pense à ses proches et à ses amis. Avec Claude, nous nous connaissions depuis 86, mon tout premier poste au gouvernement comme secrétaire d'État à l'enseignement, et lui était au cabinet de mon ministre René Monory. Et puis on s'est suivis, même si on n'était pas toujours d'accord sur tout, mais nous sommes suivis avec beaucoup d'amitié, de près ou de loin, et de plus en plus près, quand nous étions pratiquement dans des bureaux voisins à l'Assemblée nationale lors de mon dernier mandat, et jusqu'à la dernière commission d'investiture sur Paris, qui remonte maintenant à 2 mois. Claude, si vous voulez, moi ce que j'en retiens, pour moi Claude c'était en quelque sorte un roc physique, intellectuel et moral. Et je crois que c'était vraiment un de ces hommes qui donne du sens et qui donne de la fierté à la politique. Parce qu'il avait des convictions, parce qu'il avait du caractère, parce qu'il avait du talent et parce qu'il avait surtout beaucoup d'humanité. Claude, c'était un caractère de Breton. C'est une Basque qui le dit, un caractère fort, entier, fier, indépendant. Et il avait aussi le goût du débat intellectuel, mais qui était appuyé sur une vraie culture, une culture historique, une culture juridique. Et puis, bon, ce que tout le monde ne voyait pas forcément, c'est que c'était quelqu'un de fidèle en amitié, quelqu'un de loyal et quelqu'un de très attentif aux plus faibles. Et ceci, près de lui, dans son 16e arrondissement auquel il était très attaché, comme plus loin avec les chrétiens d'Orient que l'on souhaitait tout à l'heure, et c'était un de nos combats communs.
Alors justement, c'était un homme de bataille discrète, Claude Goisguen, finalement, quelqu'un d'assez en retrait dans cette vie politique de droite, mais un pilier, comme vous le disiez.
Oui, et puis pas tellement en retrait, c'est-à-dire qu'on le voyait, on l'entendait combattre. Vous faisiez référence à une de ses interventions il y a quelques mois. Et en même temps, c'est vrai qu'il y avait d'autres dossiers sur lesquels il agissait avec beaucoup de discrétion, beaucoup de retenue. Et c'était un peu ça, à la fois le personnage haut en couleur, et puis l'homme très très attentif, très très soucieux de la réalité de la vie des autres. Et c'était à la fois un grand ferrailleur et quelqu'un d'extrêmement respectueux des convictions des autres. Je vous le disais, nous n'avons pas toujours été d'accord sur un certain nombre de sujets, mais il n'empêche que l'amitié que nous pouvions avoir n'était en rien entachée par cela.
Merci beaucoup Michel Alliou-Marie, merci Madame le Ministre d'avoir choisi Europe Midi pour vous exprimer suite au décès de Claude Goisguen.
Il est midi 33.
Europe 1.
Restez avec nous, on va partir du côté de Lyon où là aussi la bataille, vous allez le voir, politique a changé. Et nous serons avec Pascal Perrineau qui analysera la situation puisque Laurent Wauquiez et Gérard Collomb sont en train de se rapprocher.
Il est midi 36, la suite de votre journal avec Pierre Devineau et Raphaël Duchemin.
Avec l'actualité politique du côté de Lyon, Pierre, où une bataille ardue est en cours pour rafler la ville et la métropole.
Oui, avec une alliance improbable, en tout cas à tout le moins inattendue, Gérard Collomb et Laurent Wauquiez, le maire de Lyon, l'AREM, et le président LR de la région, se sont rencontrés hier en vue de sceller un accord pour faire barrage aux écologistes. L'idée, un front républicain destiné à faire barrage aux écologistes alliés à l'extrême gauche, à la mairie et à la métropole de Lyon.
Bonjour Pascal Perrineau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Évidemment, votre analyse politique nous intéresse au plus haut point sur ce duo assez inattendu, l'alliance entre la droite dure et la gauche modérée. C'est vrai que ça n'est pas commun.
Alors, ça n'est pas commun, mais comme vous avez pu le constater, les municipales, le premier tour qui a eu lieu il y a quelques semaines, n'était pas du tout un premier tour commun. On voyait bien les effets de la véritable révolution politique, disruption politique que la France a connue, avec des alliances déjà au premier tour d'un nouveau type. De temps en temps, La République En Marche était avec la droite, de temps en temps, elle était avec la gauche, de temps en temps, elle était seule, de temps en temps, comme à Lyon, elle était divisée entre différentes sensibilités. Dans ce remue-ménage phénoménal, il faut s'attendre un peu à tout. C'est pour ça, au fond, que le rapprochement entre le président d'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez et Gérard Collomb n'est pas tellement surprenant. D'autre part, il faut savoir que pendant longtemps, à la fois au niveau de la métropole de Lyon, comme jadis de la ville de Lyon, il y avait des alliances entre la droite modérée et la gauche modérée, qu'a incarné d'ailleurs de temps en temps Gérard Collomb quand il était au Parti Socialiste. C'était un homme qui avait et qui a toujours, une fibre plus de compromis avec le centre-droit qu'une fibre d'union de la gauche.
Oui. Alors, Pascal Perrino, est-ce que d'un côté, il y a La République En Marche qui est un parti de plus en plus sans étiquette, c'est-à-dire qu'il est aussi bien à droite, à gauche, et qui donc peut se rallier, j'allais dire, aisément aux Républicains. Est-ce que de l'autre côté, on a aussi une échéance où on va aller au coûte que coûte?
Alors, on l'a vu au premier tour, on le verra au second tour. La République En Marche, qui est en général faiblement implantée au plan local, va aller à ce combat dans des dispositifs d'alliance extrêmement différents d'une région à l'autre, d'une commune à l'autre et d'une ville à l'autre.
Inédit.
Oui, bien sûr. Alors, il faut rajouter à cela aussi la volonté d'exécutifs municipaux de ne pas laisser facilement la main. Et on voit bien comment Gérard Collomb, qui a été un peu surpris des scores médiocres qu'il a pu faire aussi bien au niveau de la métropole que de Lyon, tente de sauver la mise. Surtout qu'il y a eu la conflagration écologiste. Au fond, personne ne s'attendait véritablement à ce que l'écologie arrive dans la commune de Lyon à 11 points devant la deuxième liste, qui en l'occurrence est celle du républicain Monsieur Blanc, et même dans la métropole, Monsieur Bernard pour les Verts arrive nettement en tête devant le républicain, le sénateur Buffet, même si la marge est plus faible avec 5 points.
Mais vous comprenez, Pascal Perrino, qu'on a du mal à imaginer Gérard Collomb partager, parce que quand il y a une alliance, il y a partage, des idées qui ne sont pas forcément les mêmes sur la PMA, sur des sujets que porte Laurent Wauquiez haut et fort.
Oui, mais vous voyez bien qu'il s'agit du pouvoir municipal et du pouvoir métropolitain. Le conflit sur certains enjeux, vous citez la PMA...
Donc c'est de la petite politique. C'est de la petite politique face à la grande politique.
Et ça peut prendre, Pascal Perrino, auprès des électeurs lyonnais, ce message-là, vous croyez qu'ils vont mettre de côté la grande politique et ne voir que les intérêts municipaux?
Ça pose des problèmes. On le voit déjà, et pas simplement au niveau des électeurs lyonnais. On voit déjà que parmi certains alliés de Gérard Collomb, je pense en particulier au maire du 9e arrondissement à Lyon, il y a une volonté de ne pas rentrer dans ce type d'alliance. Du côté de LR,
c'est pas très cohérent,
le maire de Rieux-la-Pape, qui est le patron de la fédération LR, donc ça n'est pas n'importe quoi, dit qu'il n'est pas en faveur de ce rapprochement avec Gérard Collomb. Donc on voit déjà qu'il y a des dissonances, mais on est à l'heure de toutes les dissonances.
Eh bien, c'est un feuilleton que nous suivrons attentivement. Merci beaucoup, Pascal Perrino, d'avoir été en ligne avec nous dans Europe Midi.
Une nouvelle nuit d'affrontement, Pierre, avec la police. Ça s'est passé dans le Val d'Oise après le décès d'un jeune homme à mini-moto.
Oui, la victime, âgée de 18 ans, a été percutée hier soir par un train au niveau d'un passage à niveau. C'est à Montigny-les-Cormeilles. Une semaine après la mort de Sabri dans un accident moto à Argenteuil, à proximité d'une voiture de police, ce décès a relancé les heurts avec les forces de l'ordre, Marion Dubreuil.
Hier soir, juste après la collision, les policiers se rendent sur les lieux de l'accident pour installer un périmètre de sécurité sur le passage à niveau et faire des constatations. Mais leur intervention est mal interprétée par certains habitants. Des photos sont détournées sur les réseaux sociaux pour mettre en cause les forces de l'ordre dans le décès du jeune homme. De la pure manipulation d'images, regrette une source judiciaire. Le procureur de la République de Pontoise, qui a ouvert une enquête, l'assure. La piste accidentelle est la seule envisagée à ce stade. Il n'y n'y avait pas de policiers présents au moment de la collision, ni en amont, pas de contrôle, ni d'intervention. Le jeune homme qui circulait sans casque a sans doute commis une imprudence. Mais hier soir, la rumeur a gagné le département. Les affrontements avec la police se sont multipliés jusqu'à 4 heures du matin. À Montigny-les-Cormeilles, une dizaine de caméras de vidéoprotection a été cassée. Le commissariat a été la cible de projectiles. Au final, 8 personnes âgées de 16 à 32 ans ont été interpellées pour participation à un attroupement armé.
Merci Marion Dubreuil. Bonjour David Lebars.
Bonjour.
Secrétaire général des commissaires de la police nationale, ça vous agace quand vous entendez qu'il y a eu potentiellement une manipulation d'image, que la justice dit que la seule piste à envisager est une piste accidentelle ?
Ça m'agace profondément, c'est même plus grave que ça, parce que vous le voyez bien, d'abord il y a des victimes, il y a un jeune qui se tue en moto, c'est toujours triste, un accident, et certains se servent d'un accident qui est reconnu pour le moment par les forces de l'ordre, par la justice, pour continuer de véhiculer cette haine anti-flic, et là il faut dénoncer les responsables. Je le fais depuis plusieurs semaines, depuis de nombreux mois, tous les gens, tous ceux qui ont la haine anti-flic chevillée, qui se servent d'événements tristes, dramatiques, pour véhiculer et augmenter cette haine anti-flic, ce sont les ennemis de la République, parce que ces personnes-là sont responsables de ces violences urbaines. Et qu'est-ce que c'est les violences urbaines ? C'est d'abord des policiers blessés, c'est également beaucoup de matériel dégradé. Et qui sont les victimes, encore une fois ? Ce sont les citoyens, et c'est totalement inacceptable.
C'est aussi symptomatique d'un malaise aujourd'hui entre la police et certaines bandes de jeunes, certains quartiers, de cette difficulté de dialoguer ?
Oui, ce malaise, il faut pas le nier. Moi, je fais partie de ceux qui sont parfaitement ouverts à l'idée qu'on a beaucoup de choses aussi à revoir chez nous. Mais encore une fois, il faut pas non plus se tromper de coupable.
Qu'est-ce qu'il faut revoir, David Lebars, au niveau de
l'aide? Il faut revoir la façon dont on veut que notre police travaille dans le futur en tenant compte des 10, 20, voire 30 dernières années. Le sujet, il est très simple, c'est qu'on a une police aujourd'hui qui est regardée sous son activité répressive, le maintien de l'ordre, la répression des violences urbaines, l'activité répressive qui est détournée, on l'a vu. Alors pendant les Gilets jaunes, il y a eu toutes ces polémiques sur les violences policières, mais on n'est plus regardé comme une police au service des citoyens. Et le sujet majeur des prochaines années, c'est comment remettre notre police au service des citoyens dans l'idée qu'elle ne l'est pas pour certains. C'est faux, mais il faut qu'on arrive à démontrer tout ça. Et pour ça, il faut qu'on se réforme aussi en interne. Mais encore une fois, après, il y a la responsabilité de la classe politique qui est irresponsable et qui souffle une partie, bien sûr, sur des braises parfaitement dangereuses.
Irresponsable, vous dites. Pourquoi ?
Oui, responsable, parce que depuis plusieurs mois, même peut-être quelques années maintenant, on a des gens qui ont des mandats électoraux nationaux, des élus locaux, et qui se répandent sur les réseaux sociaux avec ce vent, je vous dis, de haine anti-flic, qui sont appuyés en cela avec certains journalistes autoproclamés ou journalistes tout court, certains avocats, tous ces gens qui finalement affirment des choses que vous et moi on ne sait pas. Qui était hier à Montigny ? La police qui est intervenue après l'accident ? Qui est à la vérité finalement ? C'est l'institution policière qui fait l'enquête, c'est la justice, et aujourd'hui ces deux institutions sont contestées.
Et qu'est-ce que vous allez faire sur ce dossier ou sur d'autres dossiers similaires ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ?
D'abord, je crois qu'il faut qu'on sache s'exprimer. Je crois que la police nationale a besoin de s'exprimer, et pas seulement à travers la voix de syndicalistes comme je le fais. Il faut qu'on arrive à mieux communiquer, à se défendre avec les images. Aujourd'hui, on est affaibli par une guerre des images. Vous l'avez dit dans votre reportage. Quelques images détournées de leur véracité. Et ensuite, on a des violences urbaines. Il faut qu'on puisse se défendre rapidement. Mais il faut aussi que ceux chargés de défendre l'institution police nationale, ceux qui sont garants de l'ordre républicain, prennent la parole. Il faut que notre classe politique soit soudé sur ce sujet qui est un sujet d'union nationale. Ça va revenir pour les élections, on le sait très bien. Et le sujet de la sécurité sera un des enjeux majeurs des prochaines élections.
Eh bien, le message est passé. On espère qu'il a été entendu. Merci beaucoup, David Lebars, d'avoir choisi Europe 1 pour vous exprimer.
Il est midi 45, la suite de votre journal avec Pierre Devineau et Raphaël Duchemin.
Avec Pierre, une hausse historique. Le nombre de demandeurs d'emploi s'est littéralement envolé au mois d'avril.
Écoutez bien, plus 22,6% pour ce qu'on appelle la catégorie A. Ce sont des données publiées à l'instant par Pôle emploi, Emmanuel Dutheil.
Oui, il y a eu en avril 843 000 demandeurs d'emploi en plus. 4 575 500 personnes sont actuellement sans emploi en France. C'est tout simplement du jamais vu depuis la création de la série statistique en 1996. La hausse est, comme vous l'avez dit Pierre, de 22,6% contre 7,1% en mars, qui était déjà bien évidemment énorme. Alors quand on parle de catégorie A, on parle de personnes qui n'ont pas du tout travaillé sur le mois écoulé. Toutes les tranches d'âge sont concernées par cette hausse. Mais